On s'en va en voyage, on s'en va ailleurs. Soleil d'un jour avec Maurice Efti. Maurice, bonjour. Où partons-nous, Maurice, aujourd'hui ?
Voir une vierge, voir le Templo Mayor, la zone rose, une salle aztèque, pourquoi pas ?
Maurice, je suis au Mexique, là. Il me reste 3 jours. 3 jours pour sentir les odeurs, pour voir les couleurs, pour voir le Mexique.
Ah, Frédéric, ça me gênerait qu'il vous reste 3 jours. J'aimerais que vous commenciez par 3 jours et puis que vous puissiez les remplir de façon assez, assez spectaculaire, parce que c'est très difficile de connaître une ville aussi grande. Et déjà en arrivant...
Elle est si grande que ça ?
Bah oui, parce qu'elle fait plus de 20 millions d'habitants, mais vous ne remarquerez pas ces 20 millions d'habitants. Ça, vous les aurez vus hier soir en arrivant en avion, c'est-à-dire que vous aurez survolé tout cela, et vous aurez effectivement l'impression d'un fleuve incroyable, enfin d'une sorte de mer intérieure avec des milliers et des milliers de maisons. Si vous arrivez de jour, vous allez voir obligatoirement les volcans d'un côté, et puis une immense cuvette, et puis vous aurez surtout l'impression de rentrer dans quelque chose qui a une autre couleur, c'est-à-dire que de voir que c'est une ville assez polluée, assez, assez impressionnante. Et vous allez débarquer obligatoirement dans un aéroport qui est immense, qui est non seulement international, mais qui est surtout un aéroport national où partent des centaines d'avions chaque jour pour n'importe quel endroit de la République. Et vous serez déjà peut-être un peu paumé au départ.
J'imagine dans une ville de 20 millions d'habitants.
Bah oui, mais déjà à l'aéroport, parce que, en principe, on a un bagage. Si vous êtes suisse, vous avez le droit d'entrer sans problème, parce qu'un simple touriste suisse doit demander, on peut même l'obtenir dans l'avion, des cartes touristiques. Et je ne vais pas vous autoriser 3 jours, je vous autoriserai un maximum de 90 jours. Et vous aurez un papier à remplir qui vous obligera à savoir que vous devez le représenter à la sortie. Donc c'est assez précis, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est quand même une fédération, il y a quand même des contrôles assez sévères. Mais cette carte de tourisme est assez facile, il n'y a que les Français, par exemple, qui ont besoin d'un véritable visa parce qu'il y a un système d'échange politique. Et les Français, c'est vrai, demandent un visa aux Mexicains. Alors immédiatement, on a répondu par la réciproque.
Donc je n'ai pas ce problème, tout va bien.
Alors, si vous arrivez dans un aéroport comme celui-ci, je sais pas, il y aurait peut-être quelques petites idées. D'abord, quand on arrive dans un pays comme le Mexique, d'abord, il ne faut pas changer de peso avant de partir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pars normalement avec une liasse de dollars. C'est assez pratique si vous avez une poche kangourou bien camouflée. Et puis...
une petite banane.
Oui, ou alors la banane à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi ses poches qu'on met à l'intérieur. Mais je pars volontiers aussi avec des travel checks qu'on peut changer quand même à peu près partout. Alors, c'est la première chose. On sait très bien que quand on arrive, soit tout seul, soit en groupe, on a immédiatement besoin d'un peu d'argent. Alors, on débarque, on est déjà pris dans des files incroyables, celles de la migration, comme on l'appelle, enfin, et puis on se retrouve au cœur de l'aéroport avec des systèmes qui sont assez curieux. Le premier, c'est déjà de savoir qu'au moment où vous attendez vos bagages, il faut bien les surveiller, et puis que vous avez derrière vous, vous êtes dans une salle avec des colonnes toutes simples, et il y a un tout petit bureau sympathique où vous pouvez faire du change tout de suite. Et c'est important d'en avoir, parce que dès que vous sortez, il y a un porteur qui va vous embêter, il y a le premier taxi à prendre, il y a même des guichets spéciaux où on essaye de supprimer les différences de prix de ces taxis, parce qu'il y en a des centaines qui attendent devant l'aéroport. Tout le monde va vous... D'abord, vous rentrez immédiatement dans la foule. Hein. C'est-à-dire que dès que... Oh, il y a même encore un petit passage sympathique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de passer dans les free shops ou si vous avez l'habitude d'emporter des objets particuliers. Mais il y a quand même un contrôle de douane qui n'est pas sévère, mais qui est très drôle. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà vu des endroits où on pèse sur un bouton et en fait vous avez un feu vert ou un feu rouge qui s'allume ?
Non, jamais, non.
Ah ben, vous voulez le vert ou le rouge ?
Oh, le vert, évidemment.
Ben, le vert, vous passez sans autre. Il y en a à peu près 8 sur 10 qui passent au vert et puis les deux autres qui doivent ouvrir tout leur bagage parce qu'ils ont passé au rouge. Alors juste après cela, vous plongez vraiment dans une foule compacte et il faut savoir que... Le plus pratique pour une ville pareille, c'est bel et bien le taxi hein, au départ de l'aéroport. Parce que d'abord, le métro n'y arrive pas complètement. Il y a une station qui s'appelle aéroport, mais qui est un peu trop loin. Et puis, les bus, il faut les oublier, parce que quand c'est la première fois qu'on prend un transport en commun à Mexico, on ne peut pas forcément viser vos bagages. Mais enfin, ce sont les endroits quand même qui sont les plus visités. Il y a même une ligne que j'aime beaucoup qui part de la zone rose, qui est donc le centre à la fois touristique et hôtelier. Une ligne qui remonte toute l'avenue de Reforma et qui va jusqu'au musée d'anthropologie, qui va même plus loin parce que cette avenue est extrêmement longue. Et c'est le bus, je ne crois pas qu'il ait changé de numéro, c'est le bus numéro 100. Il m'est arrivé de parler au chauffeur. Quand je monte dans le bus, je demande au chauffeur, je lui dis simplement combien. Et il me répond 32.
Ça dépend.
Et c'est pas le prix. Mm-hmm. Non, c'est le nombre de personnes qui travaillent en ce moment sur la ligne. C'est-à-dire les gens qui sont là pour vous faire les poches éventuellement. C'est vraiment une organisation. Alors, il y a des lieux privilégiés pour cela, et le bus touristique, si j'ose dire, parce que tout le monde va à un moment donné au musée d'anthropologie, est un bon endroit pour ce genre de travail. Et c'est vrai qu'ils ont une façon de vous effleurer, de vous bousculer, de vous interpeller, d'avoir un enfant qui vous gêne dans les jambes quand vous êtes debout et que vous vous tenez à la poignée, qui permettent effectivement juste le petit coup de rasoir occasionnel au bas du sac. On a l'habitude maintenant de porter ses sacs à dos, c'est génial, parce que ça libère encore le travail, puisqu'on peut vous le faire carrément sans que vous le sachiez. Alors les sacs à main de dame, ça c'est très visité, c'est vrai. En principe, ça se visite avec un coup de rasoir. Et vos poches aussi, d'ailleurs. On a à peu près le même principe. On est étonné de voir le nombre de choses qui peuvent glisser d'une poche à l'instant où l'avant a reçu un coup de rasoir. Ces gens sont très doués. Alors ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est qu'il n'y a que ces endroits-là où l'on vole. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont ce métier comme n'importe quel métier. Par contre, si vous voulez prendre un taxi, ben moi je sauterais dans le taxi uniquement après avoir passé un guichet spécial où on vous demande, vous avez une énorme carte de cette ville impossible, et puis il y a des taches de couleur qui commencent par le centre, et puis des zones bien précises qui correspondent à un prix. Alors, si vous payez par exemple 35 nouveaux pesos, ben vous allez vous retrouver dans votre hôtel dans la zone rose, par exemple. Un prix fixé, et puis à la sortie, vous présentez votre ticket et on vous désigne le taxi en question. Ils sont des centaines à faire la queue, mais ce sont des taxis officiels.
Look, your love. it from my hands, from my hands. You know you'll never be more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands, from my hands. You know you'll never be more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety.
Maurice, je suis dans la zone rose, je suis à mon hôtel, c'est ma première nuit à Mexico. Où est-ce que je peux aller ?
Le soir,
où est-ce que je peux
ça?
Sortir ? Oui, le soir comme ça.
D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un hôtel à Mexico. Je veux dire par là que lorsqu'on déboule de l'Europe et qu'on tombe dans un hôtel, votre taxi va vous poser devant. Vous aurez d'abord un portier, vous aurez un porteur, là, tiens, vous allez utiliser vos premiers pesos, et vous en aurez un qui va vous monter vos bagages dans les chambres. Je dirais même, dans les hôtels assez simples, on porte assez peu son bagage, on est souvent assisté. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité, n'importe où dans ce pays, et surtout dans cette ville, d'être sollicité. C'est-à-dire, le premier geste, c'est de vous prendre la valise. Alors, au début, on tape sur les doigts en se disant, il va me la piquer, et puis ensuite, on se dit, bon, bah, c'est leur boulot, et tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire, dans un hôtel, quand on y arrive, on va se rendre compte très vite qu'il y a un personnel qui est souvent plus impressionnant que chez nous, en nombre en tout cas. Et qu'au fond, quand on prend les salaires locaux, eh bien on comprend très très vite que chaque fois que vous donnez un demi-dollar ou même un quart de dollar en pesos, c'est que vous êtes déjà en train de leur permettre de vivre, tout simplement. Ce sont des gens qui ont souvent, je sais pas, deux horaires, 2x8, ça c'est très courant. Ils ne le font pas forcément dans le même hôtel ni le même endroit. Vous pouvez avoir quelqu'un qui sert dans un restaurant et puis un autre jour, vous le retrouvez comme portier d'hôtel ailleurs. Ou un qui travaille dans un bureau et qui en même temps aura un travail de surveillant de nuit, par exemple. Je veux dire que très souvent au Mexique, on est obligé pour survivre, simplement pour garder sa télévision, pour faire vivre sa famille, qui est d'ailleurs dans un quartier souvent éloigné, bien vous avez besoin de tous ces petits pourboires. Et en fait, vous les subissez de façon assez sympathique, finalement, parce qu'ils ne sont pas du tout racoleurs ni trop embêtants. Vous les subissez autant d'un enfant que d'un petit vendeur de rue. Alors sortir comme ça, puisque c'est votre question, d'abord le premier soir, je ne sais pas si vous aurez vraiment faim, parce que vous serez parti le matin.
On a toujours faim après. Pas vraiment. Après combien d'heures d'avion ?
Ben justement, quand on part de l'Europe, on part en général le matin, il y a de très bonnes connexions sur le Mexique, et en fait on y est quelques heures après, parce que même si vous partez à 9 ou 10 heures du matin de Genève, ben vous arrivez à 5 heures de l'après-midi à Mexico, le même jour, parce qu'il y a effectivement 7 ou 8 heures de décalage selon la saison. Alors après 5 repas sur une même journée, en général on a moins envie de sortir le soir. Alors prendre un verre dans la zone rose, c'est génial, il y a plein d'endroits sympathiques. En admettant que vous soyez vraiment au cœur de la zone rose, bon, la zone rose c'est une espèce de triangle, on la dit rose parce qu'elle n'est pas rouge et qu'elle n'est pas blanche, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite ambiance. Bon, il faut d'abord dire que le Mexicain est quelqu'un qui a beaucoup changé au cours de ces dernières années, surtout pour les dames, et qui n'est pas aussi latin qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on pouvait éventuellement passer en vélo et juste vous faire la petite claquette sur les fesses. Aujourd'hui, ça arrive encore dans le métro, mais beaucoup moins. Je veux dire que ce sont des gens qui ne sont pas timides, non ? Ils ont cet aspect macho et cette façon de s'affirmer. Ils vous abordent volontiers, homme ou femme, si vous vous promenez comme touriste dans la rue, on vous demande facilement si vous avez besoin de quelque chose. Un policier, par exemple, il y en a tout plein qui sont là pour ça, à chaque carrefour. Le premier soir, vous sortez, vous pouvez avoir 3 personnes qui vous demandent ce que vous voulez, ce que vous cherchez, et puis une dizaine d'autres qui vont vous tendre une carte si vous cherchez un cabaret.
Ce qui ne se passe pas ici, d'ailleurs.
Ça commence. De temps en temps, on nous glisse quand même un petit bout de papier en disant allez voir tel spectacle, vous avez de temps en temps un home sandwich à quelque part. Je dirais que ce côté tiers-mondiste commence à exister parce qu'il faut faire tourner la machine, quoi. Enfin, y a des problèmes commerciaux. Et dans la zone rose, d'abord, le soir, c'est un peu mort sur le plan commercial, parce que tous les commerces seront fermés à partir de 8-9 heures. Mais il y a des drugstores. Je vais les appeler comme ça parce qu'ils ont encore ce goût de drugstore qu'on avait chez nous il y a quelques années. Vous avez par exemple un grand magasin, une chaîne qui s'appelle le Sanborns, qui est ouverte pratiquement toute la nuit. Et il y a un téléphone, il y a un kiosque, des journaux, des guides si vous en avez besoin, et un restaurant qui fonctionne très bien avec des spécialités du coin et des choses à l'américaine. Donc c'est très américanisé. Cette zone rose est la plus américanisée du pays, certainement. Alors ça, c'est le premier aspect, des cafés qui ont un petit goût de chez nous, avec ce petit rien de fin de soirée qui fait qu'un petit couple préférera aller prendre un café dans un restaurant comme cela. Le premier baiser, le premier attouchement, c'est quelque chose d'assez discret. Il n'y a pas du tout ce côté racolage ou ce côté exacerbé qu'on trouve dans certains pays latins. Le Mexique a une certaine réserve, il est très catholique, il est finalement assez timide par rapport à cela. Alors pour vous amuser, je dirais que les amusements mexicains sont assez...
Déjà pour chauffer comme ça, qu'est-ce qu'on peut boire ?
Alors quand on rentre dans un café normal, bah, bizarrement on va vous offrir des choses de plus ou moins de chez nous. La bière est très bonne. Ils ont une bière excellente. Et autrement, bien sûr, si vous voulez être couleur locale, c'est-à-dire le bon touriste qui déboule, aura peut-être
envie... On a parlé de la tequila.
Hein. Ah, la tequila, c'est un alcool assez fort, 40 degrés, vous êtes à 2200 mètres d'altitude, ça chauffe et ça tourne très vite à cause de l'altitude, comme la bière déborde d'ailleurs de votre verre, parce que vous la versez trop vite. Mais tequila pure, bon, ça, j'irai plutôt dans un endroit qui correspond à cela. C'est-à-dire, je reprendrai éventuellement un petit taxi, si vous êtes dans la zone rose, pour aller dans les endroits un petit peu plus louches, un petit peu plus sympathiques, comme la place Garibaldi ou certains lieux du centre, qui est le vieux quartier, où là, on a vraiment des cantines, où on a vraiment des endroits qui correspondent à une idée mexicaine plus ancienne. Avec de la musique, avec des mariachis, avec, par exemple, je ne sais pas, si vous vouliez faire une grande bouffe, par exemple, parce que ça arrive aussi, les Mexicains adorent manger, ils ont peu d'argent, mais quand ils le dépensent, ils le dépensent volontiers dans les endroits qui, bizarrement, sont assez chers. Et, je ne sais pas, la fonda del Recuerdo, par exemple, c'est un endroit où vous pouvez recevoir... C'est un restaurant où on peut recevoir 500 personnes et il y a souvent 4, 5, 6 orchestres qui sont tous de Veracruz avec des harpes, avec une musique très gaie. Il y a des papillotes dans tous les coins, vous savez, ces petits drapeaux de papier qui traînent au plafond. On vous sert des huachinangos, ces poissons qui sont des espèces de dorades géantes comme ça qui débordent de votre assiette. Et à l'entrée, vous aurez effectivement un verre genre tequila. Tequila, disons, quand on la prend comme cela dans les lieux qui sont vraiment mexicains, on vous sert ça avec un verre de sangrita. Et la sangrita, c'est de la tomate avec du piment. C'est assez fort. Alors ça vous prépare déjà la gorge. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on a la peine à finir le verre. On le boit en général plus ou moins cul sec. Et ensuite, vous mettez un peu de citron sur le... Vous savez, entre les deux doigts, entre l'index et le pouce, on mouille d'abord avec
l'air. Donc c'est pour calmer. Hein.
Non, pas du tout. Le sel qu'on dépose ici, c'est pour transformer le goût et créer, vous obliger à saliver. C'est ça l'idée. Mmh. Et le sel et le citron, le petit citron vert que vous allez presser sur vos lèvres et que vous allez laisser couler dans votre bouche, c'est une façon d'exciter complètement vos glandes. Et c'est vrai que vous allez créer beaucoup de salive en quelques secondes. Et après, vous glissez effectivement ce côté huileux et assez particulier de la tequila que vous allez mélanger à tout cela. Donc vous mélangez vous-même votre goût à l'intérieur. Enfin, vous créez vos goûts mélangés à l'intérieur de la bouche et vous avalez tout cela. Et
ça ne va pas me saouler, non, quand même.
À 40
j'ai toute la nuit. Hein,
40 degrés, ça saoule. Hein. 40 degrés, ça saoule énormément. Et des alcools qui sont très appréciés par les dames, bah, je dirais que c'est plutôt la margarita, où il y a un petit rien de Cointreau, un petit goût un peu plus douceâtre, avec un côté blanchâtre dans la préparation de la boisson. Mais il y a toujours cette curiosité du Mexique qui fait que tout le bord du verre est recouvert de sel. On aime bien ce mélange. Et je vous dirais que la nouvelle façon de boire la bière depuis déjà une bonne quinzaine d'années, c'est de prendre uniquement la boîte. On n'a plus de verre. On prend la boîte et puis on met le sel et le citron sur la boîte et on met tout ça au fond du gosier.
Rhythm is a power.
Maurice, je suis un peu saoul, un petit peu allumé comme ça.
Ah oui, tout
la musique aussi.
Mm-hmm. Bah oui, bah, un rythme magique comme on vient d'entendre. C'est vrai que ça pose d'abord une première question quand on est au Mexique. On n'est pas forcément... la culture française est très aimée. Il y a des alliances françaises à quelques mètres de votre hôtel et les gens adorent ça. Le Mexique a toujours aimé ça depuis le 19e parce qu'ils avaient pris la pâtée avec les Français et je crois surtout parce que cette culture française a fait rêver tous les gens du début du siècle. C'est-à-dire quand on était riche au Mexique, on lavait son linge à Paris. Et c'est resté dans toute l'Amérique latine, mais particulièrement au Mexique, ce goût du français. Or, ils ne parlent pas vraiment français. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, le porteur de tout à l'heure, celui qui vous a introduit dans le restaurant, n'est pas obligé de vous parler français. Mais aujourd'hui, pratiquement...
Justement, j'ai faim, donc.
Alors, si vous voulez vous exprimer, j'ai envie de vous envoyer, si vous êtes vraiment dans le centre, je choisirais de remonter la rue Londres. C'est très pratique à Mexico. Chacune des rues que vous avez, par exemple, dans la zone rose, porte un nom de ville. C'est-à-dire qu'en fait, on sait exactement à quel moment on change de ce qu'on appelle de colonie. Les colonies, ce sont de grands quartiers et chaque quartier porte des noms qui sont similaires. Je m'explique. Dans la zone rose, vous n'aurez que des noms de rue. Donc, par exemple, vous avez votre hôtel à la rue Amberes, qui est la rue en vert, et vous allez remonter ensuite la rue Londres, mais vous pouvez arriver avec le taxi par la rue Liverpool. Et quand vous cherchez la boîte sympathique ou le dancing, il sera sur la rue qui est au bout, qui est Florencia, qui est Florence. Donc, pour vous dire que les adresses sont assez faciles, toutes les rues sont coupées en carrés, et moi, je vous enverrai juste à deux pas de l'hôtel, à la rue Londres, pourquoi pas vous donner l'adresse, c'est un restaurant très sympathique, qui ne s'appelle pas la Fonda del Recuerdo, comme tout à l'heure, qui veut dire l'endroit ou l'auberge du souvenir, mais celle-là s'appelle la Fonda del Refugio, l'auberge du refuge, hein. Enfin, c'est le refuge, si vous voulez. Alors, c'est un petit bistrot qui a été rénové plusieurs fois, mais qui garde justement ce ton d'époque, début du siècle, avec des photos, avec les gens qui ont visité l'endroit, il y a plusieurs étages, il y a une vaisselle à la fois en verre coloré, avec un côté très, très typiquement artisanal, et dès que vous pénétrez à l'intérieur, vous vous rendez compte qu'il y a un esprit mexicain qui a quelque chose de très typique. Mmh. D'abord, il y a des desserts à l'entrée.
Voilà qui est intéressant. J'ai envie de manger quelque chose de typique.
Alors, justement, ça, c'est ce que l'étranger imagine en allant au Mexique. Je disais tout à l'heure à propos de cette jeune femme qui chantait en espagnol, vous avez remarqué qu'à un moment donné, elle change de langue, elle parle en anglais. Ben, c'est ça, en fait, le défaut majeur de l'image qu'on a du Mexique, c'est de croire qu'on est Tex-Mex. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit en Europe comme message passe d'abord par les Chicanos et ceux qui vivent aux États-Unis, et puis ce côté, je dirais, californien ou de Floride, de Miami, bien c'est une mauvaise broyeuse pour l'esprit mexicain, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont déjà très chewing-gum. Et finalement, ce n'est pas vraiment le Mexique, ni la cuisine mexicaine, surtout. Alors, dès qu'on parle de cuisine mexicaine, on a l'impression qu'on doit obligatoirement manger, je ne sais pas, quelque chose qu'on ne trouve pas sur place, par exemple. Vous savez, ces haricots avec de la viande, ben ça, c'est très rare qu'on vous les serve au Mexique. Par contre, aux États-Unis et dans le monde entier, on prend ça pour un plat national.
Mmh, pour le chili.
Le chili con carne, ça, vous avez traduit obligatoirement. Eh bien, en l'occurrence, moi, je dirais que si je devais rentrer à la Fonda del Refugio, je choisirais peut-être des plats qui sont vraiment des plats très cuisinés. Alors ça, on ignore aussi que c'est une des trois ou quatre grandes cuisines du monde et que son défaut majeur, c'est la préparation. Ça demande une préparation incroyable. Les plats de famille, les vrais plats de fête, prennent des fois une semaine dans la préparation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre qu'on a des ingrédients de base qui sont très riches. Vous avez des centaines de piments différents, vous avez des condiments qui sont très, très spécifiques au Mexique, et puis il y a quand même tout ce qu'on utilise tous les jours. Ça va de la tomate en finissant par les cacahuètes, etc. Et qui sont des choses qui nous sont parvenues grâce à la découverte de l'Amérique. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que je pourrais vous choisir au menu ? Peut-être une entrée assez sympathique, des crêpes de huitlacoche.
Ah, très bien.
Mm-hmm. Le huitlacoche, c'est un champignon, un champignon noir, bleu marine, qui a le défaut de pousser sur du maïs. J'entends par là que c'est une sorte de moisissure du maïs. C'est un espèce de petit bubon comme ça qui va s'accrocher à un jeune épi de maïs.
Et c'est mangeable, ça.
Et oui, l'aspect est absolument effroyable. C'est une espèce de gros paquet noir comme cela. Il reste encore quelques fibres, quelques cheveux de maïs. Et on peut le transformer en sauce ou le laisser plus ou moins entier. On mélange cela avec des condiments qui l'adoucissent un peu. C'est un champignon qui a un goût. Bah, je dirais que je vais résumer, c'est la truffe du Mexique. Hein. Alors vous fourrez vos crêpes avec cela, ça se sert chaud. On peut éventuellement, et ça je trouve un peu criminel, y rajouter un soupçon de fromage. Mais ça c'est l'influence suisse, c'est l'influence européenne, parce que le fromage n'existait pas bien sûr dans la cuisine précolombienne. Et en deuxième plat, il y a beaucoup de possibilités. Là, disons, on aime beaucoup les volailles. On aimait beaucoup le dindon, qui est aussi d'origine du Mexique. Mais maintenant on aime bien le poulet parce que c'est plus tendre, c'est vrai. Et là vous pourriez l'assaisonner de façon différente. Un poulet par exemple avec la fameuse sauce au chocolat. On en reparlera peut-être un autre jour, mais parce que
sauce au cacao.
Oui, c'est une sauce au cacao amère, bien sûr. Hein. Ça n'a rien à voir avec notre chocolat, même si le mot chocolatl vient de l'aztèque ou de la langue nahua, si vous préférez. Mais c'est surtout pimenté. C'est-à-dire qu'on rehausse là avec des piments fumés, avec des.
J'aime ça.
Alors c'est bien pimenté. C'est assez fort, et on met encore quelques petites graines de, je sais plus le nom de ces petites graines blanchâtres comme ça qu'on a des fois sur du pain aussi, du sésame par-dessus, et puis on vous servira ça éventuellement de façon aussi assez criminelle avec un peu de riz. Mais il y a un autre plat que je trouve fabuleux dans ce restaurant qu'on évoquait, c'est le pipián verde. Le pipián verde, alors ça demande un boulot absolument fou. Ce sont des graines de courge qu'on sèche et qu'on broie. On aime bien broyer, on aime bien travailler les choses longuement sur ce qu'on appelle un metate. Ça se fait maintenant de façon peut-être plus mécanique, parfois même au mixeur pour certains plats. Mais le metate, c'est une pierre en forme arrondie avec trois pieds dessous et on a une main, c'est-à-dire un grand rouleau de pierre qui permet d'écraser et de broyer tout ce qu'on veut y mettre. Alors, ce goût des graines de courge, c'est quelque chose d'assez fabuleux et ça se sert avec des piments verts qui sont mélangés. Je n'ai pas la recette sous les yeux, mais ça donne un goût à la fois onctueux avec ce petit arrière qui fait un peu cacahuète comme ça, comme fond de goût. On nappe toujours beaucoup les plats et il faut chercher le poulet dessous, grosso modo. Alors on vous demande simplement si vous voulez une pechuga ou éventuellement la cuisse ou le filet, bien sûr. Alors pour vous exprimer, je vous dirais que la langue universelle au Mexique, qui n'était pas appréciée il y a quelques années, c'est l'anglais. Mais le Mexique a quand même créé des liens tout à fait nouveaux avec les États-Unis et finalement, on vous prend très volontiers comme vous êtes, c'est-à-dire pour un Français, il faut le faire savoir d'abord, et puis ensuite pour quelqu'un qui naturellement s'exprime dans la langue de Shakespeare, parce que tout le monde, un jour ou l'autre, a passé par le côté broyeur des États-Unis. Gros voisin, comme Dieu d'ailleurs. Oh!
Maurice, j'ai bien dîné, j'ai assez bien dormi malgré les piments. C'est le matin, j'imagine qu'il fait beau.
Le matin, c'est une bonne question. Je veux dire par là que n'oubliez pas que vous avez 7 à 8 heures de décalage. Hein. C'est-à-dire que vous allez tomber du lit aux alentours de 5-6 heures. C'est-à-dire que même si vous vous couchez tard, puisque vous serez arrivé à votre fin de soirée vers 11 heures, comme ça, après avoir pris encore un repas, si vraiment vous en aviez envie, et même si vous allez écouter un peu de musique, que vous sortez en boîte, que vous allez écouter un spectacle, ce qui est possible aussi, il y a plein de choses à faire à Mexico. Les gens pensent au ballet folklorique, enfin, il y a plusieurs ouvertures, disons, autant sur le plan spectacle théâtral, opéra, pas tellement. C'est un peu moins à la mode maintenant, pour des questions de fond souvent, mais par contre, il y a effectivement un tas de revues très américaines finalement, mais avec des artistes qui sont très mexicains. Et puis les petits endroits qu'on évoquait tout à l'heure qui vont du petit bar avec les deux portes façon saloon.
Petit bar western.
Et puis les restaurants, souvent, il y a de très bonne musique d'ailleurs. Alors je dirais que le matin, on tombe du lit très tôt et la première surprise du Mexique, c'est peut-être la vie et la ville qui s'éveille. C'est une ville tellement immense, en principe vous êtes dans une tour, c'est souvent le cas, même les hôtels modestes peuvent être dans de véritables tours. C'est quand même une impression assez curieuse quand on ouvre le rideau le matin et qu'on voit tout à coup cette ville qu'on ne connaissait pas puisque vous seriez par exemple arrivé de nuit. Et qu'on voit cet infini de la ville et puis c'est toi. Les toits qui sont en dessous de vous, qui ne ressemblent à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vrai toit dans cette ville, mais en plus, ils sont occupés. Donc, ce sont des sortes de plateaux, comme ça, les uns à côté des autres, à des hauteurs différentes, parce que c'est une ville complètement anarchique au point de vue architecture. Et ces toits sont occupés soit par des tanks, enfin, des réservoirs d'eau, par exemple, parce que chaque maison a son réservoir d'eau pour des questions de pression. Et ils sont souvent vides, d'ailleurs. Et parce qu'on va chercher l'eau à des centaines de kilomètres et qu'il faut effectivement avoir un système de pompe pour faire monter tout cela. Et puis il y a souvent le petit cagibi, la petite maison carrée sur la grande maison. Et là, ce sont en général les servantes ou les gens qui s'occupent de la maison qui y vivent. Alors il y a toute une vie intense comme ça, une sorte de mini bidonville en surface avec le linge. Enfin bon, une ambiance très, très napolitaine, mais pas sur les côtés, mais sur le dessus des maisons. Et cette première image, c'est aussi une question de lumière. Vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude. Le matin, souvent, le ciel est un peu plus propre. Et puis, tout à coup, vous vous rendez compte que vous...
On n'en souffre pas, ça, de l'altitude oui. Surtout le matin, quand on se lève comme ça.
Oh, je dirais terriblement, dans la mesure où tout à l'heure, vous parliez de votre boisson supplémentaire. C'est 2002, il n'y a rien à faire. On les a dans les jambes. Hein. Et au début, il faut quand même, je ne dirais pas faire attention, mais on se rend compte, si par hasard l'ascenseur ne marche pas, qu'effectivement, on ne court pas de la même manière, on ne fonctionne pas de la même manière. Et par rapport à cela, bon, la deuxième surprise du matin, ce serait peut-être le petit déjeuner.
On ne va pas nous le servir au lit, donc.
Vous pouvez l'avoir au lit, pourquoi pas, mais c'est surtout ce que vous allez pouvoir commander qui va vous impressionner. Je crois que ce qui touche tout étranger qui arrive au Mexique, c'est la qualité des fruits.
C'est ce que j'allais dire, oui, des fruits.
Ah bah oui, si vous
une
demandez...
Une belle corbeille de fruits.
Si vous demandez un jus d'orange, non, on va vous le préparer. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on aime poser sur une assiette. Et d'abord, le jus d'orange est absolument extraordinaire. Il est beaucoup trop grand souvent. C'est plutôt favorable. J'entends pas là, on aime prendre de grands jus d'orange. Dans la rue, par exemple, si vous descendez prendre votre déjeuner dans la rue, vous allez voir qu'il y a des centaines de petits stands avec des machines qui sont assez curieuses. Il y a deux sortes de machines. Il y a celles qui pressent les oranges. Hein, c'est des choses en aluminium comme ça. Pouf, ça vous prend le dessus de l'orange. Et puis, il y a d'autres machines qui sont assez curieuses pour ceux qui aiment l'orange de façon différente. Ce sont des machines qui ont une espèce de petite pointe et vous glissez ça exactement entre deux axes et puis votre orange est pelé d'un seul coup. Ça crée des sortes de vrilles comme cela très, très courtes et on vous la coupe en deux d'un seul coup et on vous frotte cela avec du piment et du sel bien sûr.
Du piment d'habitude. Sur l'orange.
Ah oui, un piment rouge, enfin du paprika si vous préférez, ça ressemble au paprika. Et on vous sert ça sur l'orange avec un soupçon de sel. De nouveau, ça vous fait saliver et en même temps, ça vous passe la soif de façon extraordinaire. On fait ça aussi sur les raves d'ailleurs, les grosses raves blanches, vous savez, on les coupe en tranches. Et alors systématiquement, on vous met une bonne rasade de paprika et toujours du sel. Et naturellement sur la rave, parce que ça va manquer, on en avait dans l'orange, le côté citrique, c'est-à-dire qu'on va serrer encore un petit citron vert. Mais alors si vous êtes dans un hôtel, ce qui va vous épater, c'est le buffet. Le buffet qui a toujours ce côté un peu théâtral, monumental, où vous avez des fruits frais. Et il y a des fruits comme ça qui me remontent à la mémoire immédiatement. Quand je ne mange plus d'ananas ailleurs que dans ces pays-là. Je ne mange plus la sandia, comment est-ce qu'on dit en français la sandia, celle, vous savez, c'est rouge avec des petits pépins noirs.
La pastèque.
Ben voilà. Et en l'occurrence, ça sert aussi le matin éventuellement. Et puis un fruit qu'on mange très très peu finalement, c'est la papaye. la papaye, concert rouge sur la côte du côté d'Acapulco et jaune sur les hauts plateaux. La papaye, ce sont ces petits arbustes qui ont l'air d'être des parasols, comme ça, avec ces gros mamelons. On dirait, je ne sais plus quelle divinité grecque, enfin Athéna par exemple, quand on la voit avec ses centaines de seins autour du corps, ben, un arbre, un papayer, ça donne un peu cette impression. Ça a vraiment une forme oblongue, comme ça, très, très lourde. Et ce sont des fruits qui se découpent en deux. Et à l'intérieur, vous avez des centaines de petits grains noirs et gluants. Et cette belle chair orange ou rouge qui vous est servie en tranche et qui a un goût assez curieux. J'ai un peu plus de peine. La rouge est assez douceâtre, je dirais même un peu écœurante, avec ce côté presque huileux lorsqu'elle arrive sur la langue. Et ça a quand même un petit goût, je dirais pas rance, mais c'est pas très loin. Et c'est assez déplaisant au départ. Et puis, il y a des gens qui s'y mettent, qui adorent la papaya. Entre parenthèses, si vous avez déjà la vengeance de Montezuma ou des petits problèmes intestinaux, ce qui peut arriver, le Mexique n'est pas grave hein, par rapport à cela. Mais vous pouvez très bien avoir, comment est-ce que je vais vous dire cela ? Ce qui nous atteint le plus, c'est en fait des mini-infections intestinales. C'est-à-dire, c'est simplement le côté dérangé, le changement de boisson, le changement d'alcool, de piment, tout ce que vous avez pris hier soir, vous me direz que vous avez bien dormi. Mais ça peut vous déranger
malgré
suffisamment.
Les piments, donc.
Ah oui, mais ça peut justement vous déranger suffisamment, voire créer une petite infection intestinale. Mmh. Alors la papaye est très bien pour ça. Ou alors vous prenez des pastilles qu'on trouve dans toutes les pharmacies d'ailleurs, et qui finalement nous calment tout cela. Il faut le soigner un peu comme on mettrait quand même un soupçon d'antibiotique. Et bon, on tient le coup, quoi. Mais la vengeance de Montezuma, c'est le dernier empereur. Il a bien quelques droits sur les étrangers, pourquoi pas.
Waiting.
suis arrivé hier soir, Maurice, hier soir samedi, on est dimanche, dimanche matin, je viens de déjeuner. Qu'est-ce que je peux aller visiter peut-être de un lieu le plus près?
Bon, d'abord, si c'est domingo, si c'est dimanche, j'ai à vous donner un petit truc pour faire des économies. Les musées sont gratuits. Tiens, ça, c'est une bonne idée.
Le dimanche.
Bah oui, ils sont tous gratuits. Mais par contre, ils sont fermés le lundi. Alors, gaffez-vous. C'est-à-dire, le lundi, il n'y a pas un seul musée qui soit ouvert au Mexique. Par contre, les sites archéologiques le sont. Donc, par exemple, le dimanche, j'irai au musée d'anthropologie. Ça, c'est vraiment la première visite. C'est le plus beau musée du monde. Et c'est vrai que c'est le plus beau musée du monde parce qu'on a tout sous la main. C'est-à-dire, on a les Mexicains qui viennent le visiter le dimanche parce que c'est gratuit. Il y a vous. Et puis, il y a le fait de pouvoir observer en même temps le côté anthropologique, la naissance de l'Amérique. Vous allez retrouver toutes les salles de toutes les cultures du pays. Et puis, à l'étage, vous aurez encore toutes les salles d'ethnographie. C'est immense. Et il y a 10 000 pièces qui sont présentées en permanence. Alors là, bon, on en parlera peut-être la prochaine fois. Je ne sais pas. On pourra peut-être faire une petite visite du musée d'anthropologie.
Mais je compte bien.
Ben oui, parce qu'il y a des choses fantastiques à apprendre et à voir, parce qu'il faut vraiment regarder, prendre le temps de regarder les choses. Mais vous sortez de votre petit déjeuner, vous l'avez pris complet avec des œufs pour tenir le coup jusqu'à 2h de l'après-midi, parce qu'on le mange vraiment...
J'ai du mal à marcher d'ailleurs. Là.
Oui, l'American breakfast du matin, c'est quelque chose qui se dit à l'anglaise, ça ne me gêne pas et qu'on peut vraiment déguster. En sortant de l'hôtel, il y a plusieurs solutions. Alors d'abord, vous avez la limousine devant, c'est possible. Vous avez le petit taxi coccinelle, parce qu'on fait encore des coccinelles au Mexique et on ne fait plus de publicité parce qu'en définitive, en Europe, la petite VV n'existe plus.
Elle a disparu. Hein.
Alors, elle existe encore au Mexique, elle existe encore au Brésil. Et en l'occurrence, ça, ce sont les taxis, les meilleurs marchés. Et puis l'autre solution, c'est le métro. Alors le métro, j'adore. Le métro, il y en a un juste à côté de la zone rose, c'est très facile. Il y a chaque fois des petits motifs, des petits dessins. Chaque petit dessin représente une station ou un quartier parce qu'il y a des milliers de personnes ou des centaines de milliers qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire à Mexico.
D'où peut-être les zones vertes, rouges,
non, c'est non seulement les couleurs, mais c'est carrément des hiéroglyphes. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, si vous arrêtez à Insurgentes, on va mettre la cloche des insurgés. Si vous arrêtez, au Zocalo, on va mettre l'aigle, le fameux aigle du drapeau mexicain. Chaque endroit... Si vous allez, par exemple, au musée d'anthropologie, vous descendez à Chapultepec. Chapultepec, c'est la montagne de la sauterelle. Alors, c'est une petite sauterelle sur un symbole de montagne à la façon aztèque. Et si j'ai choisi Chapultepec et le musée, c'est parce que le dimanche, tout le monde y est. C'est un immense parc au bout de Reforma. Et là, vous avez des gens qui jouent aux échecs, vous avez des gens qui pique-niquent, on s'amuse, on achète des ballons, des barbes à papa. C'est vraiment le petit peuple. Alors ça, attention, alors là, le poche kangourou obligatoire. Mais le métro, sachez quand même que les jours de la semaine, il y a 6 millions de personnes qui le prennent chaque jour. On sépare même les hommes des femmes. Mais là, si vous le prenez le dimanche, il y a ces citadins qui ont envie de...
Pourquoi les sépare les hommes des femmes?
Pour des questions d'attouchement, c'est-à-dire que quand c'est vraiment très serré, très coincé, je vous assure que c'est vraiment très serré et très coincé. On ne peut même plus se défendre de son voisin ou de sa voisine. Et on sépare ainsi les gens. Mais là, le dimanche, ce serait plutôt le côté bucolique, le côté familial. On part avec tous ses enfants. Et le musée a justement en même temps ce côté populaire. Devant, vous aurez par exemple beaucoup plus de vendeurs qu'à l'ordinaire. Il y a plein de boissons et de nourriture partout. On a l'impression qu'on peut s'arrêter sur chaque trottoir pour déguster quelque chose. Et puis, il y a en même temps, il y aurait par exemple le mât avec les hommes volants. Enfin, des choses qu'on peut déguster petit à petit avant de faire toutes ces salles de musée. Voilà, c'est une première suggestion pour un dimanche. Et puis le dimanche, il y a aussi Xochimilco qui se trouve au sud de la ville avec ses fameux jardins flottants. Des solutions dominicales, je vous en trouverai tant que vous voulez. Pourquoi pas?
La prochaine fois, je deviens sauterelle.
Oui, au parc, là. C'est une bonne idée. Vous pouvez leur dire Chapultepec.
Chapultepec.
Chapuline, c'est la sauterelle.
C'est très simple.
Petite sauterelle. Clic-clac.
À bientôt.